La langue, c'est le sang dans le corps et le cœur de l'entreprise. Donc, elle est insaisissable parce qu'elle est partout.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, votre moment pour plonger dans l'univers des entreprises à mission. Mon objectif est simple, que ce concept prenne forme pour vous, qu'il nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter et une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Bordeaux, styliste du langage à la tête de Madame Langage. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages sur la communication, dont un qui sort dans les prochains jours intitulé « L'écriture responsable ». Je trouvais que c'était un sujet assez essentiel pour les entreprises à mission, mais plus globalement pour toute entreprise souhaitant communiquer sur ses démarches de responsabilité d'entreprise. Sujet essentiel car pas simple et même de plus en plus complexe. Et c'est là que Jeanne apporte de précieux éclairages. Dans son ouvrage, elle liste un certain nombre de critères de fond et de forme à respecter pour faire de l'écriture responsable un levier d'action pertinent et pour éviter de tomber dans les travers du greenwashing. C'est parfois une question de bon sens, mais surtout c'est une question de vérité, vous verrez. J'avais demandé à Jeanne d'égrener son propos d'exemple, ce qu'elle a fait à merveille. Donc vous avez un épisode qui mélange des apports théoriques et des illustrations pratiques. Elle donne même quelques conseils pour passer à l'action. Bref, tout est là pour passer un bon épisode et finir avec le sourire, vous verrez pourquoi. D'ailleurs, si vous souhaitez contacter Jeanne, n'hésitez pas à le faire sur Twitter ou sur LinkedIn, elle y est très active. Je n'en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonjour Jeanne.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Le moment est d'autant plus opportun que votre prochain livre sort dans quelques jours, L'écriture responsable. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui est vraiment très important pour les entreprises aujourd'hui. On sait à quel point le langage et la communication sont pour certaines entreprises des pouvoirs utiles, pour d'autres des cache-misères afin de donner une coloration un peu plus vibrante à une réalité un peu trouble. Et pour d'autres, des épouvantails qu'on ne veut surtout pas approcher, de peur de se brûler les ailes, la peur du greenwashing, du social washing, enfin tous ces termes qu'on utilise aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle présentation de l'invité, que je vous laisserai compléter, amender ou corriger. Donc Jeanne Bordeaux, je dirais que vous êtes une amoureuse des mots. Vous définissez comme une styliste en langage. Je dirais que vous êtes un peu au chevet des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de communication et d'expression depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. En 2004, vous avez même déposé votre méthode de la charte sémantique. Vous avez publié de nombreux ouvrages au travers des années. Alors je vais juste citer le dernier, mais on peut les retrouver assez facilement. Donc le dernier en date, c'est Le Nouveau Pouvoir du Langage, sorti en 2020, avant le prochain qui sort dans quelques jours. Vous intervenez régulièrement dans des conférences et dans les médias, notamment Stratégie, Éco-Réseau Business ou le Journal du Luxe. Et en plus de ces activités, vous êtes artiste. Vous réalisez des tableaux à partir de collages, notamment d'images, à partir des mots d'une époque. Et on y reviendra à la fin de cet épisode. Des aspects à corriger, à ajouter ?
Non, tout est là. Peut-être que j'ai tendance à parler souvent de langage et pas que de mots. Parce que je dis que dans la musique, on ne parle pas des notes, mais du solfège et de la musique en entier. Donc depuis plus de 20 ans, c'est un de mes combats. Mais sinon, l'esprit est bien là. Merci, Vivien.
Alors j'aimerais qu'on revienne pour commencer un petit peu sur l'importance du langage, hein, pas juste des mots, mais du langage pour une entreprise. Parce qu'en fait, ça peut paraître très évident en fait, pour notamment tous les communicants qui se disent bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça peut servir?
Ah oui, alors je rentre dans les bureaux de chaque président et je fais des envieux parce que dès que je les rencontre, je parle avec eux et je leur dis, savez-vous que le langage donne forme à la pensée et que l'on va vendre comme on parle et on écrit, de même que l'on pense comme on parle et on écrit. Et ça n'est pas toujours compris. C'est une évidence qu'il faut rappeler chaque jour. Là, évidemment, je suis tout de suite accueillie parce que, je ne peux pas citer les noms, mais il y a des entreprises qui ont fait plus de 20% de ventes à partir du moment où elles ont créé ces écoles internes de langage que je conseille tant. Et vous avez la gentillesse de parler de la charte sémantique. Je me suis dit, au début des années 2000, il y a des chartes graphiques. Pourquoi n'y a-t-il pas une charte sémantique qui serait la partition chorégraphiée de toute la parole de l'entreprise, sachant que pour ma part, j'embrasse l'interne, l'externe, et que j'ai créé des méthodes d'analyse qui permettent à des entreprises de comprendre et entendre comment elles sont perçues.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a eu une sorte de moment de bascule où le langage est devenu un outil au service de l'entreprise, ou ça a toujours été le cas ?
Non, vous avez raison, il y a eu deux bascules. Probablement 2008, les réseaux sociaux vont vraiment commencer de pénétrer en Europe. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis, je les ai vus arriver un peu plus tôt, donc je m'en suis préoccupée. Et c'est là où, quelques temps plus tard, je vais écrire l'entreprise, le langage et le digital. Mais effectivement, dans les fins des années 90, on avait une langue amidonnée, aseptisée. 2008, les entreprises vont être en conversation avec le monde entier. On le voit bien quelques années plus tard avec l'affaire Strauss-Kahn. En quelques minutes, on a su qu'il ne serait jamais président de la République. Après, je vais ajouter que tout à coup, être en conversation pour une entreprise avec ses publics, c'est fondamental parce que ça a changé de posture pour l'entreprise. Elle est émettrice dans un dialogue qui est d'égal à égal, et on va déjà voir poindre le mot responsable parce que c'est faire face et être face à face. Donc ça a changé tellement de choses. Je vais ajouter qu'en parallèle, et c'est un peu le thème de ce petit livre de l'écriture responsable qui va paraître 15 juin, c'est qu'il y a la crise de la vache folle fin des années 90, en 2002-2003, Buffalo Grill, il y a un climat, en 2007, on a le Grenelle de l'environnement, comme par hasard 2008, les réseaux sociaux, très souvent, il y a tout le thème de la post-vérité qui va arriver, notamment des États-Unis. Et les réseaux sociaux vont voir monter tout le phénomène des fake news. Comme toujours, il y a convergence, et c'est pour ça que j'aime tant faire ces tableaux où je pose et compose et dispose pour exposer, parce que on voit ensemble des phénomènes parallèles. Et qui pourrait dire celui qui a compté le plus ? On ne le sait pas, mais on sait bien que 2008, il y a une rupture. Je pense qu'après, il y a eu quelque chose de très important. J'avais trouvé ce livre majeur. C'est le livre de Vincent Nayard qui, en 2010, va dire les collaborateurs d'abord et les clients après, si je dis le titre en français. Mmh. Et il a été adapté en français et préfacé d'ailleurs par Francis Maire, qui est un homme extrêmement sérieux. Mais ça change beaucoup de choses, parce que non seulement la parole s'ouvre, on perd le côté top-down du haut en bas de l'entreprise, qui avant était dans une langue déclarative, voire un peu autoritaire. Et non seulement l'entreprise va collaborer et parler avec ses publics, mais les collaborateurs vont être embarqués. Voilà. Et tout comme cela, c'est ce que je vais faire dans le premier chapitre et que j'ai fait. J'ai fait un rappel des faits qui montre comment la montée en puissance de cette écriture responsable par étapes va s'installer.
Et est-ce que... Alors, donc là, en fait, on a à la fois de nouveaux styles d'écriture, on a de nouveaux modes d'expression, on a de nouveaux supports. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des... Vous voyez vraiment des changements majeurs au-delà des réseaux sociaux, ou c'est principalement ça qui fait la grande différence aujourd'hui et encore à venir ?
Vivien, on vient d'en parler. Le progrès technique ou technologique correspond toujours à une évolution des mentalités. Donc, où est l'œuf, où est la poule ? Ce que je pense, c'est... J'ai eu une expression dans mes livres qui avait plu. J'ai dit, désormais, les entreprises vont faire leur cinéma. Et quand vous avez du son, du texte et de l'image, vous embrassez, on va revenir à Aristote, tous les champs de la parole. Vous êtes dans l'éthos, le logos et le pathos. Donc toute la dimension de l'expérience, du ressenti, elle a élargi la langue parce qu'on doit prendre en compte le retour du public. Et c'est là où mes chartes sémantiques ont énormément d'importance, parce que vous êtes dans un monde où vous devez, en tant qu'entreprise, fonder... en réfléchissant réellement le périmètre de votre identité. Parce que plus on vous malmène, plus on vous parle, plus vous devez vous dire « mais qui suis-je ? » Et on va voir après arriver la loi Pacte qui va beaucoup aider et qui vient croiser l'idée que j'avais dans la charte sémantique, c'est de dire vous, entreprise, vous, COMEX, vous, collaborateur majeur, pouvez-vous vous dire quelle est la visée, quelles sont mes valeurs, mes principes d'action ou mes traits de personnalité et où je me place pour dire. J'aime beaucoup cette école américaine à propos du langage qui dit « Who are you and what's your story ?» Et la troisième question, c'est « Where do you stand ?» Et finalement, avec la loi Pacte, le langage va se retrouver face à face avec ce thème « Where do you stand ?» Où vous placez-vous pour dire ? Vous, entreprise, qui êtes-vous ? Hein ? Et quel postulat défendez-vous ? Et ce qu'on va vous demander, c'est d'être sur le fond, cohérent avec vous-même, ce qui vient élargir la surface de la langue, parce que Dieu que je déteste les termes éléments de langage, mais d'une certaine manière, on va quand même vous demander, au travers de ces éléments de langage si mal nommés, des arguments, des faits, des idées, des preuves, des exemples, des chiffres. Ce n'est pas pour autant que la langue est construite. Ça me donne de l'urticaire, élément de langage, parce qu'après, on sait que Victor Hugo avait raison et que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est pour cela que je suis styliste en langage, parce que nous savons, vous et moi, que l'art et la manière seront déterminants.
Alors, on comprend bien l'intérêt pour une entreprise qui fait face à des consommateurs, donc qui est en B2C, l'importance du langage, de la communication, etc. Est-ce que vous estimez que c'est le cas aussi pour une entreprise qui est plus en B2B ?
Tout autant, et elles ont fait énormément de progrès. Elles se considèrent, sur le marché, elles ont raison, puisque tout se sait. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Et je trouve que ce sont celles qui ont le plus progressé. Elles ont quitté un langage expert, elles se rendent compte qu'elles doivent être comprises elles-mêmes par des parties prenantes, et de toute façon, désormais, tout est viral et poreux. Elles y ont intérêt.
Donc pas de différence. C'est vrai qu'en soi, on peut se dire, voilà, une entreprise qui est en B2C, c'est assez normal parce qu'elle est face à des clients, des consommateurs, etc. En B2B, on est dans un langage plus feutré, peut-être...
Et vous avez même des grandes entreprises du CAC 40 qui sont sur des marchés plus spécifiques. Je peux penser à Safran, je peux penser à Saint-Gobain. Eux-mêmes ont des exemples dans leur langue d'analogie. Ils racontent dans les chantiers qu'ils mènent l'intelligence et l'ingénierie que ces chantiers nécessitent. Et ils trouvent des très bonnes images pour commenter les résultats des chantiers dans lesquels ils ont participé. Donc c'est toute la langue qui s'est désaseptisée et qui s'est désamidonnée. Et tant mieux. Alors maintenant, avec l'IA, c'est encore mieux, cela va dans mon sens, c'est-à-dire qu'on nous ouvre à chacun le cerveau et on commence à vouloir comprendre ce qui font le langage. Langage qui avait été comme l'enfant oublié de tous les directeurs de la communication, ou la plupart depuis 25 ans. C'est avec les présidents que je travaillais, parce que peut-être que par leur directeur de cabinet, ils avaient le perçu d'un langage extérieur qui leur était souvent réimporté. Il y a des directeurs de la communication qui ont compris la part importante du langage, mais ce n'était pas majeur dans les années 2000.
Justement, si on regarde un petit peu l'évolution, parce que bon, vous avez beaucoup de recul sur un petit peu les
25 ans,
ça vous permet d'avoir quand même pas mal de recul sur la manière dont les choses ont évolué. Est-ce que, au-delà des phénomènes externes, exogènes, si je puis dire, mais comment est-ce que vous voyez l'évolution de la part des entreprises dans la manière dont elles se saisissent de ces enjeux ?
Oh, ça va être très simple. C'est une exigence de vérité. Je crois que le premier critère, si on part sur les critères et le fond de cette écriture responsable, ça va être la pertinence et la cohérence. Et tant mieux.
Bon, c'est très bien, ça va nous faire une petite transition effectivement toute trouvée sur l'écriture responsable. Quand j'entends le terme d'écriture responsable, je me dis finalement on peut aussi abuser de l'écriture. Ça veut dire qu'il y a une écriture qui n'est pas responsable. Est-ce que c'est un peu exagéré de ma part de dire ça ou...
Vivien, vous avez raison. Rien n'est plus manipulatoire que le langage. C'est une épée de diamant. C'est toujours mon image, c'est peut-être mon côté Jeanne chevaleresque, mais avec le langage, on peut tout faire. Je regrette beaucoup que dès l'enfance, on n'enseigne pas le chant, la poésie, le théâtre, et qu'on ne donne pas pleinement l'amour de la langue, parce que nous sommes ce que nous disons, vous voyez. Et c'est pris comme une matière. Mon Dieu, le français embrasse toutes les autres. vous allez être bien meilleur en histoire si vous savez rédiger et effectivement contextualiser, peser le pour et le contre et développer la thèse que vous voulez démontrer. Pourquoi a-t-on fait du français une matière ? C'est toute l'éducation, pour moi, qui serait à reprendre. Et je bénis les présidents qui nous ont sollicités pour co-créer avec leurs équipes du marketing, de la relation client, de la communication et de l'interne, des écoles internes. Ce fut le cas de Patrick Roper quand il a été ce brillant directeur de la communication de SNCF. Il nous a laissé le temps, il a compris, on a pu faire un programme d'ampleur et on a travaillé avec les 500 communicants et l'université interne de SNCF. Il y a quand même des personnes qui avaient une vraie vision de tout ce qui était en train de se passer.
C'est très intéressant, ça nous permet de rentrer un petit peu dans les règles de l'écriture responsable. Alors, vous avez énuméré un certain nombre de critères, justement, pour l'écriture responsable. Alors, on ne va pas rentrer dans chacun d'entre eux, parce que sinon, ça spoilerait un petit peu la lecture de tout l'ouvrage. Mais on va quand même revenir sur ces différents critères. Est-ce que vous pourriez nous donner déjà le premier ?
Avant tout, on l'a évoqué grâce à la juste construction de votre propos, si je peux dire, la visée. On voit une grande maison comme Hermès a toujours su parler du geste, d'un ancrage territorial et d'une vérité de la beauté de la matière. C'est une maison qui est là, qui est à la mode et indémodable parce qu'elle est cohérente. Mais vous avez, je parlais des entreprises qui ont des activités plus délicates, une marque et maison comme Schneider qui a su se créer 12 critères d'évaluation clairement énoncés qui fondent les codes qu'elle doit respecter. Donc, on est sur le fond et la pertinence du sens va être majeure. C'est, à mon avis, un des premiers critères.
C'est intéressant parce que ça, en fait, ça a presque été encore plus propulsé avec la loi Pacte, dans une
Exactement.
Certaine mesure.
Exactement. La loi Pacte, si vous voulez, pour moi, elle a embrassé ce que j'essayais de dire grâce à la charte sémantique sur la transversalité du langage, en disant, attention, la langue, c'est le sang dans le corps et le cœur de l'entreprise. Donc, elle est insaisissable parce qu'elle est partout. Je me suis toujours demandé si on avait choisi le mot contenu parce que chacun était décontenancé. Mais par essence, c'est fluide. Et c'est là où cela va bien avec la fluidité du web, dont la mythologie et l'image est aussi l'eau, le surfer sur la vague, l'internaute. Et le public étant toujours intelligent, vous avez des expressions inconscientes qui ont très vite circulé, comme « j'ai la tête sous l'eau ». Moi qui suis une oreille constante, qu'est-ce que je suis amusée par cette intelligence collective qui vient à la rencontre de personnes qui se croient plus douées parce qu'elles le conceptualisent juste un peu avant, quoi. Mais ça, c'est très joli. J'aime beaucoup remarquer tous ces aspects-là. Ça fait un peu chaud au cœur. Alors, je crois que le deuxième critère qu'elles ont très bien compris et dont parle assez bien aussi Assaël Adari, qui vient de faire un livre à ce sujet, c'est « vous devez vous relier à l'autorité ». C'est-à-dire que bien que vous soyez responsable en face à face, avec une matière ouverte où les collaborateurs participent, il y a des critères référents. Et maintenant, l'autorité, elle est plutôt sur des hommes ISO, sur B Corp, sur dans la mode clear fashion, il faut être carbone neutre, ou vous avez une marque qui n'est pas si ancienne, mais louable comme Dermeden, qui sont des produits qui sont en pharmacie de cosmétiques et de soins, qui va aller se relier à la FEBEA, qui est la Fédération de la beauté et qui trouve son crédit en étant fondée avec un dermatologue. Mais on sent qu'elles veulent toutes fiabiliser les référents qui les fondent. Voilà, ça c'est le deuxième critère qui, à mon avis, est très important.
Et ça nécessite quand même de trouver les bonnes fondations sur lesquelles s'appuyer pour trouver.
Chacun trouve les siennes, c'est pour ça que je trouve intéressant de dire ça peut être B Corp pour l'un, ça va être Clear Fashion pour la mode, et puis si Dermeden qui est dans la cosmétologie veut FEBEA, il choisit. Et justement, dans le dernier livre, Assaël Adari décrit bien les critères potentiels que vous pouvez utiliser. Chacun son choix. Vous savez, avant de créer Anachronique, Madame Langage, que j'ai recréé là depuis la Covid, je dirigeais l'Institut de la qualité de l'expression. Et j'essayais d'expliquer que le qualité était le qualis. Quel est ce qui vous va ? Moi, Jeanne, je suis enthousiaste, donc je pourrais sembler autoritaire, je ne le suis point. Je vais écouter et dire, c'est vous qui savez ce qui vous va. Je suis styliste parce que je vais savoir comment le dire. Mais l'intelligence, l'expertise, et j'aimerais bien souvent que les communicants restent à leur place, elle est à l'intérieur de l'entreprise. C'est pour ça qu'on commence toujours par des audits et que le logo à l'époque de l'Institut de la qualité de l'expression était une oreille. Parce qu'on vient vous écouter et on va trouver comme Ariane le fil d'or. Mais ces répartitions des rôles pour connaître la légitimité de chacun, si on travaille sur la langue responsable, sont peut-être plus importants que jamais. Alors, je crois que le troisième critère, ça a été la parole au consommateur. C'est-à-dire que de Leroy Merlin, qui est une entreprise préférée des Français, constamment avec Decathlon, on va voir que Decathlon travaille une culture interne qui respire bien, et on va voir que chez Leroy Merlin, le consommateur, il co-participe. Et il y a la communauté des bricoleurs, et ils vous interrogent, et ils sont en dialogue assez sincère avec leur public. Et ça, le public a beaucoup de bon sens. Hein, être intelligent, ce n'est pas qu'être cultivé, loin de là. Ça peut avoir une capacité de conceptualisation et ça peut être aussi avoir beaucoup de finesse pour utiliser son bon sens, même quand on n'a pas tous les référents culturels. Il faudrait que de tout cela aussi, on parle mieux. Et je pense que ça ne va pas jusqu'à C'est qui le patron, qui est réellement une marque militante dans la co-construction, mais on voit bien que l'écriture responsable, elle est dans un dialogue qui est fiable avec ses publics. Donc ça serait le troisième.
Donc là, c'est presque en fait être, regarder ses publics comme un miroir.
Oui, oui, écouter, se réfléchir et réfléchir, entendre. Mais entendre et écouter n'est pas tout prendre, parce qu'il faut savoir qui l'on veut être. Hein, si j'ai envie de m'habiller, je ne sais pas, Yamamoto, on ne m'emmènera pas chez Chanel. Maintenant, on va peut-être me dire, tes robes trop vagues, elles peuvent faire croire que tu es un peu trop dodu. Et ce n'est pas pour ça. C'est parce que j'aime être libre, respirer et pas avoir quelque chose qui coupe mes énergies. Mais c'est intéressant de se dire, tiens, je ne suis pas aux yeux des autres comme je le crois. Et il faut toujours entendre ce que l'on vous dit de vous. Ce sera pareil pour une entreprise. On ne va pas lui faire jouer du jazz sur le ton si c'est une entreprise qui est dans le classique. Mais on va dire peut-être choisissez des morceaux moins lugubres. Voyez, parce que même dans le classique, vous allez être enjoué. Mais on ne va pas dire parce que l'entreprise doit être enjouée que sa langue doit devenir jazzy. C'est extrêmement important que chacun reste à sa place. Je crois qu'après, le critère, vous m'avez dit de vous les égrener relativement rapidement, c'est la pédagogie. Et là, on voit l'importance du fond et de la forme. C'est-à-dire que la data visualisation, le fait de mettre à l'écran, on a moins de mots, eh bien, ça va pousser à clarifier. Et attention, la clarté n'est pas la précision. Quelqu'un de précis n'est pas clair. Vraiment, chaque mot a son sens. Et je crois réellement que les outils technologiques ont aidé à clarifier les propos. Et la pédagogie, elle va désormais très loin, parce que vous avez des marques comme Luco, vous avez vraiment même, à nouveau, Leroy Merlin, qui vont expliquer un lexique en ligne et les mots qu'ils utilisent. Leroy Merlin, vraiment, ils ont 24 sur 20. Je ne travaille pas pour eux, hein, je suis libre de le dire. Ils vont même parfois jusqu'à mettre en ligne des photos pour demander au public comment ils nommeraient dans la salle de bain tel ou tel objet. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils parlent une langue que le public ne parle pas. Et comme d'habitude, ils vont ajuster. Décident-ils de prendre le mot ou est-ce une foucade? Les marques jouent gros, donc elles ont de la paix, une vision à long terme et elles savent faire leur choix. Là, les conseillers doivent se taire. C'est la marque qui doit le sentir.
Hein? Ça, vous avez l'impression que c'est un phénomène nouveau, justement, ce besoin ou cette attente de pédagogie?
Oui. Il y a profusion, ce qui crée de la confusion. Et le premier devoir d'une marque est de sentir ce que son public privilégie. Parfois, quand on a monté des écoles internes, notamment dans le luxe et pour les assureurs, beaucoup. Eh bien, je disais non, redisposer. Parce que vous avez les bons arguments, mais votre public met le troisième toujours en premier. Donc, vous n'êtes pas en train de dénaturer. Votre sens est là, mais commencez avec ce qui leur importe plus. Et c'est là où il est intéressant d'avoir sur le berceau de la langue des linguistes, parce que nous travaillons avec des stylistes, nous travaillons avec des grammairiens, nous travaillons avec des personnes qui créent des scénarios de cinéma, nous travaillons avec des auteurs, compositeurs qui vont travailler sur la prosodie, la musique de la langue. Je crois que comme les équipes de scénaristes américains qui ont au chevet des séries qu'ils lancent 25 rédacteurs, quand on a monté ces Content Factory dont le nom est aussi hideux que possible, il était clair que la complémentarité des talents de l'écriture et du langage aurait dû être beaucoup mieux réfléchie. Voilà. Mais on voit que la tech et l'IA vont aider à la compréhension de langage plus que jamais. Ensuite, on va arriver à ce mot terrible, Vivien, qui est la transparence. Parce que j'étais quand même la compagne d'Alain Etchégoyen, philosophe et homme politique, et ça a été son thème de combat. Alain a quand même écrit « Quand vous êtes transparent, on ne vous voit pas ». La transparence a quelque chose de terrible. Mmh. Donc, moi, je crois qu'il y a erreur sur le mot et je dis aux entreprises, soyez le plus clair possible. Mais non, vous ne pouvez pas tout dire. Et vous charmerez d'ailleurs si vous gardez votre mystère. Mais cacher quelque chose, ça n'est pas parce que c'est vil ou malhonnête non plus. Voyez ? Donc, toujours reprendre, précision, réellement trahir le sens des mots, que veut-on faire passer, est-on compris, et je dis aux entreprises, peut-être écrivez moins et mieux. Voyez, et transparent est un mot à manier avec précaution. Je pense qu'on pourrait citer des marques comme Dr. Oshka, par exemple, qui va vous expliquer, alors que c'est une marque qui est très bio, pourquoi elles utilisent encore le plastique. Donc pour moi, transparence, et on voit que la tendance monte en puissance parce que maintenant toutes les entreprises et les marques montrent leurs coulisses, c'est surtout ne pas tout dire, mais dire aussi parfois pourquoi on se sent en état de progrès ou pourquoi on a fait des choix qui pourraient ne pas être clairs pour le public. Donc on voit, Vivien, que je suis en train de répondre au fur et à mesure à toutes vos questions depuis le départ, parce que oui, quand j'explique cela, je crois que peut-être je fais partager le fait que le champ de la langue s'est très, mais vraiment, vraiment élargi.
Justement, sur montrer ses coulisses, j'aime beaucoup cette expression, parce que c'est effectivement ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Quand on montre les coulisses, ben finalement, on laisse à chaque entreprise est libre de montrer les coulisses qu'elle a envie de montrer. Comment est-ce qu'on arrive à juger pour une entreprise des coulisses qu'on a envie de montrer de celles qu'on n'a pas envie de montrer ?
Là, je pense quand même que le COMEX a son rôle et que les responsables de l'entreprise, le mot n'est pas là par hasard, doivent faire des choix. Ceci étant, ce sont des choix qu'ils doivent partager avec quelques autres et qui doivent être fondés sur des valeurs qui prouvent leur cohérence. Parce que ça n'est pas grave d'être incompris si plus tard on le sera parce qu'on était fidèle à soi-même. Ça n'est pas la même chose que de se renier pour cacher quelque chose. Et ce qui est beau dans ce monde, c'est que tout finit par se savoir. Après, bien sûr, il faut les justes esprits et les esprits éclairés qui pourront filtrer dans la masse d'informations ce qui fait que la vérité est apparue. Parce que dans ce trop d'infos, parfois, on ne perçoit plus. C'est ça peut-être, et c'est drôle quand on dit que quelque chose est diabolique, on dit « mais il m'embrouille ». Vous voyez, il y a un brouillard dans l'information. Et ça va être la part sombre de la partie tech. J'aime énormément tous ces nouveaux mondes, mais je pense qu'on est toujours sur le fil d'or du bon côté et du mauvais côté. Voilà, et il faut tenir le cap. Et c'est plus dur que jamais, tant sur le fond que sur la forme.
Alors, si on continue sur...
Dans les critères liés au fond, un mot que j'aime, c'est le temps. Je veux dire... Quel est un des critères de fond que votre entreprise doit respecter, qui revient d'ailleurs, la boucle se boucle avec le thème de la cohérence, c'est de vous expliquer dans le temps. Là encore, dans les marques patrimoniales, vous pouvez aussi prendre des marques malgré tout comme Martel, Hennessy. Il y a vraiment des marques Drapier dans les champagnes. Ils essaient d'expliquer depuis quand, même s'il n'y avait pas le décarboné et toutes ces choses. Et ils étaient dans une logique de respect du temps, de construction. Mais une marque comme Fleury Michon a essayé en ligne, comme c'est très, ça prédispose à l'explication et à la clarté, de prendre les dates qui expliquent qu'en 2004, ils ont arrêté l'huile de palme. En 2021, ils ont lancé un élevage biopilote, vous voyez. Et vous avez une succession... de la construction de leur histoire pour montrer leur état de responsabilité. À sa façon, je pense peut-être qu'une marque comme Yves Rocher pourrait le faire. Peut-être l'ont-ils fait. Je suis beaucoup, beaucoup en ligne. Je n'ai pas en tête les milliers de marques existantes et leur comportement. Mais le fait d'avoir des critères sur la visée, la pertinence, sur la co-construction de la parole, sur la pédagogie, sur la transparence, sur le lien au temps, ça commence sur le fond à vous dire que dois-je construire et respecter pour réussir à être dans un contrat de confiance, de fiabilité et fiat, pour que mes publics aient confiance en moi. Mmh. Vous voyez, c'est important.
Et donc ça, c'est une, pour vous, c'est une relation qui s'entretient.
Oui, qu'on nourrit temps, avec ses publics, puisqu'on est entré en conversation et qu'on n'est plus dans un rapport. Regardez tout ce qui a disparu. Le mot différenciation a disparu. Les entreprises veulent être singulières et propres et uniques et elles-mêmes. Regardez le leader. Quelle entreprise dit « je suis leader » Tout ça, ce sont des langages vieillis. On ne vous demande pas d'énoncer, on vous dit de faire partager ce que l'autre percevra pour qu'il vous le réadresse et vous dites « voilà qui tu es, toi, Vivien, ou toi, Jeanne ». Donc, c'est effectivement un duo, quoi. Il y a dialogue. Et c'est plus difficile.
Oui, parce qu'en fait, c'est plus difficile parce que ça nécessite d'interagir et puis c'est plus difficile. Parce que
et
ça
d'être cohérent avec soi-même.
D'être cohérent et dans le temps.
C'est... Et surtout que vous devez avoir une très jolie mémoire, mais parfois je me dis à quelqu'un, il y a 4 ans, vous n'avez pas dit cela. Et quand M. Sarkozy avait parlé de la TVA sociale en disant qu'il n'en avait jamais parlé, grâce au fact-checking, beaucoup lui ont remonté toutes les fois où il en avait parlé. Donc, vous voyez l'outil redoutable que sont toutes ces nouvelles technologies et ce qu'elles incarnent. Voilà, même si on veut avoir des effaceurs, il restera toujours quelque chose qui montre que vous n'avez pas été pertinent ou logique ou cohérent avec vous-même. Mmh. Donc, tant mieux.
Alors, parfois, c'est pour le meilleur, parfois, c'est pour le pire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est...
Oui, ça, bien, ça mérite, bien sûr, c'est pour ça que c'est toujours sur cette ligne du milieu, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Si on poursuit dans les différents critères.
Ah, alors là, on peut tomber, puisque nous séparons toujours fond, forme, oui. Sur tous les critères de forme. Je crois que la première des choses, c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais battue sur la charte sémantique, on m'a dit « Mais Jeanne, que fais-tu dans les dîners ?» J'ai dit « C'est très simple, j'aide les entreprises à écrire une langue qui leur ressemble. » C'est aussi simple que cela. Ce qui voulait dire que les entreprises ont besoin de choisir une tonalité et de s'y tenir et d'être fidèle là encore à elle-même, parce que vous seriez surpris par exemple de savoir que quand vous allez m'écouter, 38% de ce que vous comprenez va dépendre de l'inflexion de ma voix, de ma tonalité et d'un rythme. Donc pourrait-on rappeler à quel point la langue est un chant, une musique et cette prosodie qui va aller toucher le cerveau limbique et pas le cerveau cortical. Or le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Donc si vous voulez rentrer dans le cœur de vos publics, cet travail d'une efficacité, d'un ton travaillé en harmonie et cohérence tout du long de l'entreprise, c'est ce sur quoi je me suis beaucoup battue. Et il faut que ce ton, premier critère, soit en lien avec les valeurs. Hein, vous prenez une marque comme Gucci, elle a créé une plateforme transversale qui s'appelle Equilibrium et elle a compris qu'il fallait une transversalité. Vous prenez Heineken, il vous explique que tous leurs textes sont fondés sur cette communauté de certains critères et un ton. Toyota, c'est pareil. Toyota explique très bien pourquoi ils sont dans l'innovation et le respect de cet environnement. Mais ils vont parler de leur lab, mais ils vont dire « prenez place avec nous dans le futur ». Et c'est très intéressant de penser qu'une marque responsable peut avoir une langue qui enchante. Il ne faut pas non plus marier le responsable avec l'austère. Ensuite, je pense qu'en termes de ton, plus que jamais dans la langue responsable, comme vous voulez vous expliquer, donner des preuves, donner des faits, des exemples, eh bien, en termes de style, il faut que vous ayez des images, des analogies, des comparaisons. Suez va vous dire que pour consommer et quand vous consommez une tasse de café, vous avez utilisé 140 litres d'eau. C'est plus parlant que tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Tata Harper, qui est une femme de la cosméto-bio luxe américaine, va vous dire « suivez votre flacon ». Voilà, donc ça vous parle du recyclable, du comportement à propos du packaging, mais au travers de phrases concrètes, ancrées, saines et simples. Donc ça ne doit pas être une langue jus de tête. Et là, on a beaucoup de travail. Encore mieux, on parle de marques dont la communication n'en fait pas immédiatement des love brands. Prenez Butagaz avec Bob, hein, qui est leur mascotte, l'ours bleu. Ils vont expliquer les éco-gestes avec beaucoup d'humour, transversalement, tout au long de toute leur communication extérieure vers le public. Ce qui crée le fil bleu un peu d'un récit dont ils font de la cohérence. En étant légers, ils sont très profonds et font stylistiquement quelque chose de remarquable. C'est pour ça que j'aime pas qu'on caricature le storytelling, parce que la construction intelligente d'un récit qui fonde le religaré, le lien et l'intelligence du tout, je dirais, de l'écosystème du propos, elle est réellement importante. Et dès qu'on arrive avec les photographies quanti et quali que nous faisons de la langue, on voit si les entreprises sont en état de vérité avec elles-mêmes. Après, il y a quelque chose qui monte en puissance, qui me va très bien. C'est un de mes mots très tout à fait chéri dans la langue française, c'est la nuance. Et par exemple, une marque comme Ensi met à la fin de son rapport développement durable, nous persévérons et recherchons inlassablement. C'est très joli de ne pas montrer comme dans les années 99 ou 2000, on est les meilleurs, nous sommes les plus forts, on a tout conquis. Non, même militante, une marque comme Opal, par exemple, va vous dire « chaque achat est un vote ». Donc elle est beaucoup plus militante, mais elle est concrète. Vous êtes à nos côtés, on vous explique comment on s'occupe des vêtements et quel choix vous faites vous-même puisque vous voulez être engagé. Encore une fois, engagement est un des grands mots du monde lexical responsable, c'est donner des gages. Donc on va toujours retrouver sur la preuve. Et puis, il y a quelque chose de très très important dans cette langue responsable, j'en ai un peu parlé, elle n'est pas grise. Elle doit être punchy, elle doit, si on veut engager, créer une motivation, être incitative, et la séduction n'est pas le mensonge, mais toutes ces erreurs toujours faites. Donc vous devez être dans l'enjouement. Et vous devez être beaucoup plus vivant. La langue, elle doit irradier. La langue, c'est une énergie. Et jusque dans les années 2000, on avait cette langue morte et aseptisée. Et ce qui fait, qui est le gain des réseaux sociaux, alors que c'est une langue écrite, on est à mi-chemin entre une langue écrite et orale, mais c'est comme des dessins animés, et mon côté juvénile adore, parce qu'on a du son, du texte et de l'image. Ceci étant, ça vous engage à être très conscient qu'en termes de sensorialité et de compréhension de la langue, vous devez énormément réfléchir parce que toutes les dimensions sont reliées. Donc c'est quand même un outil très puissant. Et vous êtes tous devenus des Visconti. Alors, en jouer, effectivement, j'y tiens beaucoup parce que je crois que les marques confondent cette dynamique où vous avez du charme, où vous avez un peu de malice, où vous pouvez être légèrement facétieux, avec l'humour. L'humour, c'est différent parce que parfois l'humour fait rire aux dépens de l'autre. Donc je mets toujours un bémol à propos de l'humour parce qu'il y a un humour qui peut être très méchant, très grinçant. Donc les marques sont en train de monter l'escalier et de gravir les marches, mais attention à l'humour que vous maniez. Quand oui. Back Market vous écrit « Il était une deuxième fois », c'est astucieux et malin. Et ça, c'est rigolo, vous voyez. Ou Citéo, par exemple, qui vous dit « Vous avez assez de muscles, là, pour peut-être ramasser votre mégot ». C'est une campagne là, qui est un peu plus citoyenne et grand public, c'est rigolo. Ce n'est pas parce que vous faites le pédagogue ou le père ou la mère punissant que vous allez solliciter l'émotion et la compréhension du public que vous voulez faire bouger. Mais on voit, quand j'égrène tout cela, toutes les dimensions de la langue dont on ne nous parle que trop peu.
Bien sûr, oui, non, mais c'est vrai que sur cette dimension de l'humour, c'est à double tranchant. Parce que c'est vrai que si une entreprise s'aventure dans l'humour, alors que ce n'est pas du tout sa manière de communiquer habituellement, ça peut revenir et peut y avoir un effet boomerang assez sévère.
Et je pense que ce n'est pas autant qu'on le croit de bon effet. En tout cas pour les entreprises et les marques, je ne parle pas des youtubeurs brillantissimes, parce que comme c'est décalé dans le temps et qu'on peut regarder alors que ça n'est plus le moment, j'essaie toujours d'expliquer ça, cette synchronicité qui fait qu'une synchronicité qui est décalée, ça peut être redoutable. Et je pense à une grande marque qui nous a quittés, mais ça n'est pas grave, parce que nous n'étions pas d'accord, ils ont le droit de ne pas être d'accord, et nous aussi, et qui voulait faire une campagne pleine d'humour, et je sentais une crise grave monter chez eux. Et la crise fut grave, elle a éclaté 3 semaines plus tard, et effectivement l'humour qu'ils avaient choisi de prendre en considération était de très mauvais effets. Donc la communication, c'est mettre en commun. Il faut à la fois penser que c'est délicat parce qu'on doit être singulier et vous devez être unique, vous devez être astucieux pour retenir l'attention, pour autant il ne faut pas que ce soit déplacé. Donc c'est comme de la très très grande cuisine. Finalement, les très grands vont faire leur marché ou ont des jardins en Sarthe comme certains grands cuisiniers. Et en même temps, ils vont savoir au moment du sel ou du poivre doser une fois que le produit a été cuisiné, chouchouté, poupougné. Et c'est tout ça à l'écrit. C'est la cueillette des arguments, c'est savoir attendre pour récolter certains mots, retourner dans sa mémoire. Souvent, j'ai l'impression que nous venons, tels des princes charmants, réveiller la belle bois dormant, parce que les pépites sont dans l'entreprise et dans les langages des métiers. Donc, nos audits vont être très, très importants. Et la façon dont on les mène, parce que l'art de la question... Alors là, effectivement, c'est le champ d'excellence des hommes politiques qui savent à tout intervieweur reposer la question qu'ils auraient envie qu'on leur pose. Vous voyez, la question définit effectivement une posture. Et je dis aux marques responsables, surveillez vos FAQ. Elles sont en général d'une pauvreté et c'est pour ça qu'il faut écrire moins, mieux et regarder tous les temps d'expression digitaux d'une marque ou d'une entreprise.
Alors ça fait beaucoup de critères à traiter quand même hein, pour une entreprise.
Oui, oui, oui.
Si on considère quelques situations, prenons une entreprise qui n'a jamais vraiment réfléchi à toutes ces questions et qui ne structure pas vraiment sa communication, par où devrait-elle commencer ?
Par la cohérence de ses propos, j'ai essayé de mettre un tout petit peu dans l'ordre, Vivien, vous avez vu que le fond est déterminant. Il vaut mieux 3 bons exemples que 6 informations déhiérarchisées qui ne sont pas de même essence et où on a la foire à tout parce que les informations réunies n'ont pas de lien entre elles. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que ça que c'est que c'est ? Quand je vois, vous voyez ? Donc, je dis, pourquoi on ne fait pas moins, mieux avec du temps et connaître sa visée, poser. Et quand on va composer, on dispose et il y a des choses dont on se sépare. Il faut que les entreprises qui débutent ne veuillent pas tout dire et se dire pour les 2 premières années, quels seront nos majeurs.
Effectivement, la question de la priorité est souvent un élément clé, malheureusement pas le plus simple, hein, parce que ce n'est pas toujours évident hein, de faire ressortir.
Parce qu'il faut connaître ses principes d'action, valeurs ou les fondamentaux de sa raison d'être. Et beaucoup d'entreprises à mission ou celles qui sont plus en mariage avec la loi Pacte ont quand même des manifestes. On donne souvent quand même la Maïf en exemple. Il y a des manifestes très clairs. La Banque Postale a refait, il y a quelque temps, un manifeste qui est assez enthousiasmant, avec des mots concrets qui vont parler à ces jeunes, puisqu'elle rappelle qu'elle a 16 ans, et c'est très bien fait. La langue a besoin d'être grandiloquente pour être touchante.
Oui, tout à fait. Je vous rejoins complètement là-dessus. Alors, si on prend là le cas de figure d'une entreprise qui communique déjà pas mal, quel conseil vous lui donneriez pour qu'elle évalue un petit peu son niveau d'écriture responsable, si on pouvait...
D'avoir des diagnostics et de prendre là encore des critères où elle va, ce que nous faisons quand on arrive, analyser le perçu des publics. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas Vivien ce que vous voulez être, vous êtes aussi ce que les autres vous disent de vous. Donc, ils doivent réussir à entendre. Il fut une époque où on partageait le diagnostic et depuis 10 ans, on le donne uniquement aux dirigeants parce que parfois, c'est assez violent ce que vous recevez sur vous, quoi. Donc, est-ce utile de blesser des personnes qui ont fait des efforts et qui n'étaient peut-être pas des efforts qu'on avait dirigés dans la bonne direction ? Non. Mais il y a des choses à retenir. Dans le perçu du public, il y a toujours quelque chose à entendre. Donc, nos diagnostics prennent l'émetteur, mais prennent tout autant l'interne, puis tout autant le perçu. Donc, on mêle ces dimensions.
Alors j'ai interrogé les lecteurs de la machine à sens pour savoir s'ils avaient des questions pour vous. Donc il y en a eu quelques-unes dont certaines ont déjà été traitées. Mais il y avait une situation en particulier que vous avez déjà un petit peu abordée, mais je me permets de la rappeler. Donc c'est une question d'Isabelle qui vous demande « Est-il pertinent pour une banque, dans le cadre d'une enquête de perception d'image RSE réalisée auprès de clients, d'interroger ces derniers, donc les clients, sur leur degré de sensibilité aux différents critères d'écriture tels que vous les avez évoqués ?»
Oui, 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 parce que chaque entreprise et marque, je dirais que je le vois 20 ans plus tard, en ayant côtoyé des centaines, a un public qui lui ressemble. Et dans les degrés de perception, plus vous connaissez vos propres publics, mieux cela est. Hein, quand j'avais travaillé il y a très longtemps, plus maintenant, avec le groupe La Poste, je travaillais en même temps, et la Banque Postale allait se monter avec une autre banque, les publics n'étaient pas du tout les mêmes. Dans La Poste, il y avait plus de précarité, une réassurance, une nécessité de langage simple, d'où le fait qu'ils aient très vite utilisé une langue concrète avec des bonnes images. On ne va pas parler, par exemple, ce n'était pas la banque avec laquelle on travaillait, avec la Mileis de la même façon. Même si la Mileis a prétendu et veut une relation attentionnée, ce sont des publics qui sont une banque et c'est plus patrimonial et ce n'est pas les mêmes types, je dirais, de budget. Donc la banque doit écouter, sentir le sensible, d'autant que j'ai essayé de partager le fait qu'une langue était cet ethos, logos et pathos, et que 50% d'un langage est fondé sur le ressenti et cette dimension sensible que plus que jamais avec l'IA, nous pouvons classer, mettre en catégorie et capter. La peur, la colère, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes mots. Et c'est pour ça d'ailleurs que la raison seconde de mes crises d'urticaire, c'est le mot émotion. Parce que je pense qu'on doit parler de sensible, on doit parler d'expérience, on doit parler de ressenti, mais le mot émotion est un mot valise, ouvert, qui peut signifier le meilleur comme le pire.
Alors je vous propose qu'on passe à une question personnelle avant l'instant musical. C'est, donc je le disais en introduction, outre vos activités sur la communication, vous réalisez ce que vous appelez des fresques sociolinguistiques. Alors j'en ai quelques exemples ici et malheureusement, mais je mettrai un lien vers votre site internet pour que les auditeurs puissent voir un petit peu...
Oui, parce que ce n'est pas le même que le site de l'entreprise.
Voilà,
c'est l'artiste travaille la nuit et expose. Voilà.
Alors, d'où vient cet intérêt et comment l'art nourrit votre travail? Parce que, alors, certes, les deux sont très, très différenciés, mais il y a quand même des liens, parce que les fresques sont à partir de mots aussi.
Parce qu'on nous déverse dans les oreilles et sur le cerveau tant d'informations est déhiérarchisée et décontextualisée. Et souvent, je me dis, mais comment le cerveau, quand j'écoute toutes ces émissions, je lis les journaux, je suis linguiste, donc j'entends un peu des lignes de cohérence toute la journée dans ma tête sur des thèmes, et quand on entend tout et son contraire et qu'on est moins informé, je me dis, qu'est-ce que le consommateur reçoit ? Donc, il se trouve que j'ai eu trois deuils graves en 2008 de mes trois personnes les plus proches disparues. J'avais toujours voulu faire les beaux-arts. Et là, je pense que réembellir le monde quand on ne va pas bien, c'est ce qu'il faut faire de plus avant tout. Et je me suis dit, je vais faire enfin ces tableaux que je n'avais pas le droit de faire enfant puisque j'étais souvent punie pour aller chercher les rouges à lèvres et les vernis à ongles de ma mère et peindre sur les murs. Donc je pense que fondamentalement, j'étais graphiste tagueuse et que recomposer cette tapisserie de Bayeux du monde contemporain au travers de ces fresques lexicales, ça m'importait. Les entreprises nous exposent. L'an dernier, la Française des Jeux. Cette année, on est exposé chez Telmi, qui est une agence qui s'occupe de langage. Mais oui, exposez-moi, parce que quand on regarde l'effet des mots au travers des tableaux, c'est tellement percutant. Alors, il se trouve que j'ai travaillé depuis 15 ans les 10 mêmes thèmes. Donc, certains musées, certaines institutions, certaines entreprises vont dire « Nous voulons les 12 ans de développement durable. Nous voulons les 12 ans de politique. » Donc, c'est aussi intéressant de voir l'évolution des mots. Je dis « Moi, 2009 arrive le mot « déclassé ». Je dis que « chaos » est arrivé en 2014. Je dis que le coworking va naître dans les années 11 et 12 et revient il y a 3 ans parce que les architectes, tout à coup, ont vraiment installé ces espaces de coworking. Donc je vois les mots respirer, je dis souvent se brûler comme des papillons dans la lumière de l'actualité. Qui se souvient de Vuvuzela, du mot quenelle, descendant, de gangster au moment où il y a le scandale du Libor? Ça va être un paysage de mémoire et ce n'est pas de moi. C'est le photographe qui a commencé auprès de moi il y a 15 ans à les photographier qui m'a dit « Mais Jeanne, ce sont des vrais paysages de mémoire ». Et c'était très joli parce qu'à l'époque, la data visualisation et ces nuages de mots n'existaient pas. Mais évidemment, j'ai donné à tout cela une dimension colorée, artistique, une composition, je fabrique mes pigments. Et Honnêtement, ils ont été exposés à l'étranger. J'ai été sélectionnée par la Commission culturelle du Sénat en 2016 pour exposer dans les jardins du Luxembourg. 2000 personnes de langue étrangère passaient par jour. Ils les regardaient et les comprenaient parce que rien que par la forme, finalement, et le visuel, une émotion, là, c'était vraiment le mot émotion, une sensation forte les atteignait. Puis j'ai découvert que le français, je le savais, mais était vraiment une langue de la culture, parce que qui, dans tous ces étrangers qui venaient de Buenos Aires, de Russie, des États-Unis, qui ne comprenait pas au moins 5 à 6 mots? Donc, à un moment, des amis m'ont dit « fais-les en anglais » et j'ai dit non, la France, quand même, avec l'Italie, reste une grande langue de la culture, une langue référente. Je suis une artiste française. Oui, je serai exposée à Pékin, mais ce sera en français.
Très bien. Alors, on va finir par l'instant musical. Donc, je finis toujours les épisodes avec le coup de cœur musical de l'invité. Et vous, c'est un coup de cœur qui vous suit de loin?
Oh, je suis amoureuse de Charlie Chaplin et Smile est vraiment ma chanson culte, ouais. Light up our face with gladness, je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire chaque jour. On a une obligation d'être heureux.
Est-ce qu'il y a une version en particulier?
J'aime la toute première assez romantique, mais j'aime bien Kimber Rose ou surtout Lady Gaga qui l'a reprise. J'aime beaucoup la voix de Lady Gaga, elle la modernise, elle la rend jazz. Mais de toute façon, la beauté de la musique et l'intelligence des mots restent là. Donc je choisirai Lady Gaga.
Eh bien, on va l'écouter.
Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying, smile, what's the use of crying, you'll see that life is still worthwhile, if you just smile.
Eh bien, merci Jeanne pour ce morceau effectivement très, très enjoué, qui fait plaisir à écouter. Merci également de cet échange, de la clarté de vos propos et surtout, bonne sortie.
Merci beaucoup. Et puis, je crois que Smile rappelle le devoir qu'on a d'être heureux parce qu'on est quand même très, très gâté. Il faut qu'on y pense. Merci beaucoup, Vivien.
Merci beaucoup, Jeanne. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Avant de partir, j'ai une petite faveur à vous demander. Pourriez-vous noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify et laisser un commentaire sur Apple Podcast? Alors, c'est peut-être un petit geste, mais en fait, c'est hyper utile car ça permet d'améliorer le référencement du podcast et de le faire découvrir à plus de monde. J'en profite également, si vous avez des recommandations d'invités, que ce soit des entreprises à mission ou des experts thématiques, je suis preneur. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn et me faire part de vos suggestions. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.